France Info, midi 14h, Frédéric Carbone.
Et dans une minute, la relève. Et dans ce studio, le prix du jeune reporter a été remis ce matin. Vous avez entendu pas mal de ses reportages le mois dernier. Philippine Oisel, bravo à elle, qui a obtenu le prix, est avec nous après le fil info. 1h10, Olivia Chandiou.
Un dépistage Covid à la maison, c'est possible depuis aujourd'hui. Ces autotests arrivent progressivement en pharmacie. Attention, s'il est positif, il faut aller faire un PCR en laboratoire pour confirmer le résultat. Un nouveau vaccin également en France aujourd'hui, l'américain Janssen. Une première livraison de 200 000 doses, elles serviront à vacciner les Français de plus de 55 ans.
France Info.
Tous les jours, à cette heure-ci, pendant le mois de mars, vous avez entendu les reportages des étudiants d'école en journalisme à qui France Info avait choisi de donner le micro, l'occasion d'avoir leur regard sur cette période si particulière, l'opportunité aussi, puisqu'un jury forcément bienveillant et exigeant devait décerner le prix du meilleur de ces reportages. Ça n'a pas été facile, avec 2 mois de stage à France Info. Ils nous accueilleront donc bientôt dans cette rédaction. Philippine Oisel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes étudiante au QEJ, le centre universitaire d'enseignement de journalisme de Strasbourg. Ça n'a pas dû être évident non plus pour vous depuis un an, journalisme, la distanciation sociale, apprendre ce métier, ça passe forcément par des rencontres, par être près des gens, ça a dû être particulier quand même ces derniers mois.
Oui, c'est ça, les gens ne nous accueillent pas forcément facilement, c'est dur de s'imposer, de dire voilà, je voudrais faire un reportage sur tel ou tel sujet. Ils disent bon, il faudra respecter les distances, faudra respecter les gestes barrières, mais bon, après, quand on explique bien tout ça, ça se passe plutôt bien au final.
Le masque en reportage, parce qu'on va écouter votre reportage qui est sur le masque en crèche, le contact avec les gens que vous rencontrez en reportage, ça complique, c'est pas forcément simple. En même temps, vous avez jamais connu autre chose puisque vous commencez.
Mais c'est pas forcément simple parce que voilà, on aime bien voir les expressions du visage sur les gens qu'on va interviewer au final, mais parfois ça m'arrive de retirer le masque si je me trouve loin avec la distance et tout pour montrer voilà qui je suis, et puis ça se passe bien.
Et vous aimeriez savoir derrière le masque de l'interlocuteur qui y a, ça complique des fois.
C'est un peu intriguant. Parfois, les gens se présentent aussi en enlevant leur masque. Parfois, on ne saura jamais qui aura vraiment derrière ce masque-là, mais ça va.
C'est ça qui vous a donné l'idée d'aller regarder le masque à la crèche. Alors, c'est d'autres enjeux, hein, les tout-petits, mais c'est ça qui vous a donné cette idée-là?
Bah, un peu. Je me suis dit, au final, est-ce que le fait que les adultes portent le masque en permanence, est-ce que ça aura un impact sur le développement des bébés? Parce que ouais, ils apprennent vraiment les enfants à lire sur les lèvres, enfin, les émotions s'apprennent sur le visage, en fait, c'est hyper important. Donc sans ça, est-ce que les enfants se développent quand même? Est-ce qu'il y a des différences? Donc
vraie question que vous aviez en allant faire ce reportage dans une crèche de Strasbourg. On l'écoute, on se retrouve après.
Les bébés s'amusent avec leurs jouets à la crèche de la petite bulle. Ils sont entourés d'adultes masqués, mais s'habituent à ces demi-visages. Mathias est papa d'une petite fille de 2 ans.
Les enfants, ils voient pas nos expressions, ils voient pas forcément les sourires, mais eux doivent s'y habituer tout doucement quand même. Ça m'inquiète un petit peu parce que quand on remarque, ça va faire un an qu'on est dans cette situation sanitaire, ça représente plus de la moitié des vies de certains enfants ici.
La petite fille reconnaît ses parents, mais pas toujours les personnes qu'elle n'a vues qu'une ou deux fois.
C'est possible qu'elle ne les reconnaisse pas. Ça dépend à la fréquence où elle voit les personnes. Après, c'est sûr que si elle rencontre la maman d'un copain, des gens comme ça dans la rue masquée, je suis obligé de lui dire « Tiens, regarde le papa de Simon » ou un tonton, une tata qu'elle a moins l'habitude de voir, surtout en ce moment, vu la situation.
À la crèche, le masque est obligatoire pour tous les adultes. Sidonie, éducatrice, explique le danger pour les bébés.
On a observé vraiment une disparition des expressions faciales chez les bébés, quoi. Vraiment. Et ça, de façon spectaculaire, dès le départ du port de masque. C'est-à-dire qu'ils sourient quasiment plus et ils ont une expression assez neutre sur la journée et ils se désintéressent de nos visages aussi.
Pourtant, c'est là que tout se passe. Le visage est un outil de travail dans le monde de la petite enfance.
Quand on s'adresse à un bébé, on se met à sa hauteur et on se fait reflet, miroir de ses expressions du visage en fait. Un bébé qui nous regarde avec humour, on va le regarder aussi avec un air un peu triste en lui demandant « mais qu'est-ce que tu as ?»
Les bébés apprennent à parler en lisant sur les lèvres. Alors les professionnels redoutent que le masque ne retarde l'acquisition du langage.
Effectivement, quelles traces laisseront ces mois, encore une fois, tellement particuliers. Je ne vais pas donner de secret du jury Philippine Oisel, mais il y a eu beaucoup de discussions. Il y avait d'autres excellents reportages, une grosse dizaine, 14 avaient été sélectionnés. On peut peut-être dire que c'est l'originalité, la sensibilité dont vous faites preuve dans ce reportage qui vous a valu ce prix. C'est intéressant parce que quand on entend ces questions sur le sourire, le visage, mais du coup, on est à la radio, est-ce que la voix est encore plus importante que d'habitude dans ces lieux comme les crèches.
Évidemment, en fait, on observe une compensation par rapport à ce masque et en fait, les gens au sein des crèches parlent plus fort. Et en fait, parce qu'en fait, les bébés ne reconnaissent pas forcément qui parle, donc il faut parler plus fort pour essayer de vraiment se distinguer parmi qui parle au sein des éducateurs. Donc en fait, on observe un niveau sonore plus élevé dans les crèches, ce qui est plutôt désagréable en fait pour eux.
Oui, donc du coup, ça crée une ambiance moins feutrée, moins pour les petits.
Oui, c'est moins doux. Moi, j'ai vu, ils s'interpellent, ils crient presque, en fait. Enfin, c'est pour vraiment que les enfants puissent distinguer qui parle. Et c'est vraiment un vrai problème, en fait.
Qu'est-ce qu'elles vous disent, les éducatrices, ce sont des femmes. Qu'est-ce qu'elles vous disent qu'il leur tarde vraiment d'enlever le masque?
Oui, que parfois elles le font en se mettant loin évidemment des enfants pour qu'ils puissent voir les visages. Et elles observent quelque chose d'intéressant, c'est quand elles enlèvent leur masque, et ben les bébés raccrochent un peu aux émotions et commencent à sourire un peu. Donc au final, on voit que ça a un vrai impact, quoi.
Qui laissera encore une fois des traces. Reportage impressionniste, j'ai envie de dire, c'est pas les plus simples à faire. C'est ça que vous aviez envie de faire. Toucher à quelque chose qui est évidemment une réalité, mais qui ne sont pas des faits comme ça, bruts, avec des chiffres et autres. C'est ça qui vous intéressait là-dedans?
Bah oui, c'est ça. En fait, c'est une question d'avenir. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que l'impact ne sera pas aussi important qu'on prévoit. Mais en fait, c'est un peu un angle mort dans ces sujets. On n'est pas dans de l'immédiat, on n'est pas dans les questions de confinement, de couvre-feu, de crèche qui ferme. On est dans un peu de l'inconnu, en fait. On ne sait pas trop ce qui va se passer.
Et les parents, ils ont une forme d'inquiétude? J'imagine que vous avez parlé avec eux aussi.
J'ai parlé avec eux, oui. Mais oui, ils trouvent que les enfants reconnaissent moins bien leurs proches, par exemple, des oncles, des tantes, comme j'explique un peu dans le reportage, alors que pourtant, c'est des gens de la famille, des gens qui sont censés être familiers. Mais comme ils les ont vus qu'une fois, deux fois, eh ben, ils ne raccrochent pas au visage. Et ça, c'est aussi un problème et source d'inquiétude.
Il ne faut sans doute pas exagérer les impacts non plus. Ça ne va pas fabriquer des générations de bébés qui plus tard auront moins de contacts sociaux. Mais voilà, ça existe et ça laissera des traces. Je vous remercie infiniment, Philippine Oisel. Je vous souhaite la bienvenue à France Info. Votre stage de 2 mois, on ne sait pas encore quand, mais bientôt. Vous êtes donc la lauréate de ce prix des jeunes reporters. Une opération qu'on a été ravis vraiment de faire pendant tout le mois de mars avec toutes les écoles de journalisme en France associées à France Info. Partenariat évidemment naturel. Vive la relève. Et la météo arrive.
Les Anglais peuvent de nouveau trinquer en terrasse depuis ce matin. Réouverture des pubs et des restaurants en extérieur, mais aussi des salles de sport, des coiffeurs et des magasins de vêtements qui ont d'ailleurs été pris d'assaut à Londres.
Armand Perulloga. Les commerçants italiens veulent pouvoir rouvrir leurs magasins. Les Français, pour beaucoup, sont dans le même cas, vous me direz. Mais nous parlons des commerçants italiens parce que cela manifeste en ce moment. Bonjour Bruce de Galzin.
Bonjour.
Correspondant permanent de France Info en Italie, commerçants et restaurateurs qui défilent à Rome, même si ce cortège n'est pas autorisé.
Eh oui, la préfecture n'a pas accepté que les restaurateurs et les commerçants du mouvement Io Apro, j'ouvre en italien, manifestent devant la Chambre des députés comme la semaine dernière. La préfecture de police affirme qu'une autre manifestation était prévue, mais en fait, les autorités sont inquiètes d'éventuels débordements, car mercredi dernier, 2 policiers ont été blessés lorsque les manifestants ont tenté de rentrer dans le Parlement. Des manifestants excédés à l'idée de ne pas pouvoir ouvrir. Il faut dire aussi que les aides en Italie arrivent au compte-gouttes. Les commerçants ici parlent d'aumône, ils n'en veulent pas. Ils veulent travailler.
Et alors, au moment où vous nous parlez, Bruce, cette tension, elle est de nouveau palpable?
Pour l'instant, les manifestants sont bloqués à quelques mètres de la place où siègent les députés. Ils sont quelques centaines sous mes yeux, plutôt calmes, mais acceptent mal que les bus aient été bloqués. Ils en annonçaient 130. Et la manifestation est pacifique pour le moment, sauf que des infiltrations de groupes d'extrême droite comme Casa Pound sont craintes par les forces de l'ordre. Et depuis ce matin, un hélicoptère surveille le centre historique. Et dès 13h, les rues qui mènent au centre du pouvoir ont été bloquées. Ici, les députés, les sénateurs et le président du Conseil sont à peine à quelques mètres les uns des autres autour du Panthéon, où les forces de l'ordre sont donc très nombreuses et sous la pluie.
Merci à Bruce de Galzin depuis Rome pour France Info et bonjour Paolo Levi.
Oui, bonjour à vous.
Correspondant du journal italien La Stampa à Paris, on entendait Bruce de Galzin nous dire que les aides financières pour ces commerçants arrivent au compte-gouttes, les dispositifs d'aide publique ne sont pas les mêmes qu'en France, c'est ça aussi qui crée de la colère?
Mais certainement, la France, quand je...
quand on entend voilà, les commerçants français, ils doivent savoir qu'ils sont, quand même, même si la crise est virulente pour tous, ils sont quand même parmi les plus chanceux. Parce que c'est vrai que l'État français, la France a été très, très généreuse dans ce moment de crise par rapport au malaise que tous les commerçants sont en train de vivre. Et donc, il est absolument légitime de les soutenir en France comme en Italie. D'ailleurs, il y a eu ces 750 milliards d'euros extraordinaires qui ont été débloqués dans le cadre du plan de relance européen, ce qui représente vraiment une manne pour tout le monde. Et c'est vrai aussi que pour l'instant, les commerçants français ont plus de soutien que les Italiens, quoi, que les Italiens aussi vont recevoir voilà, du soutien.
Mis à part ces manifestations interdites comme celle d'aujourd'hui, est-ce que les commerçants et les restaurateurs italiens sont disciplinés ou est-ce qu'il y a de la désobéissance des professionnels qui ouvrent malgré tout leur enseigne?
Bah, disons que pour l'écrasante majorité des commerçants italiens, on respecte les règles, même parce que, disons que le bon sens, après un an et demi presque de pandémie, a porté tout le monde à comprendre qu'on est en guerre. Donc, c'est une guerre sanitaire, mais c'est toujours une guerre. Donc, personne ne s'amuse à devoir fermer les restaurants ou les commerces. On est dans une situation et dans des circonstances exceptionnelles. Et donc, le vrai ennemi à battre, c'est certainement pas un gouvernement qui nous demande de fermer, mais c'est un ennemi invisible qu'hélas, on ne voit pas. Et si on veut s'en débarrasser, au plus tôt, il faut hélas pour se sacrifier temporairement, mais c'est seulement partie remise parce qu'après il va y avoir une croissance incroyable. Parce que quand finalement l'Europe et l'Italie seront libérées grâce aussi à la campagne de vaccination qui, maintenant, finalement, après un départ difficile et lent, est en train d'accélérer énormément, après on vivra de nouvelles 30 glorieuses au niveau européen. Ça va être une croissance incroyable. Donc, il faut tenir bon. Il est tout à fait compréhensible qu'il y ait de l'exaspération. On le voit dans ces heures même à Rome. Il y a ces manifestations avec pour l'instant 500 personnes en face du Parlement, 50 personnes qui ont été identifiées par la police, etc. Mais ça représente toutefois une minorité, disons, par rapport à l'écrasante majorité des commerçants italiens qui souffrent. Et c'est tout à leur honneur que malgré la souffrance, ils résistent parce que voilà, ils comprennent qu'on est en une situation particulière de guerre.
Eh bien, merci pour ce message d'espoir et de nécessaire solidarité, Paolo Levi, correspondant du journal italien La Stampa à Paris. Alors même que les restrictions sont assouplies à partir d'aujourd'hui dans certaines régions italiennes, la Toscane, le Piémont, la Calabre, quelques autres encore. Il est 15h10. Le fil info maintenant. Armand Perrouloga.